Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, je reçois un acteur hors norme, radical, qui porte en lui une douceur énigmatique, presque vénéneuse, sans doute la raison d'ailleurs pour laquelle il irradie dans des rôles souvent au bord du gouffre. Cet acteur, c'est Jean-Hugues Anglade, qui sera du 10 au 15 mars prochain président de la compétition fiction du Festival de cinéma de Valenciennes, avec parallèlement à cette compétition une projection de quelques-uns de ses films cultes, 37-2 le matin, La Reine Margot et Maladie d'amour, tournée avec la trop rare Natasia Kinski, qu'il va retrouver à l'occasion de ce festival, puisque elle est l'un des jurés de la compétition fiction. Agnès Jaoui sera, elle, invitée d'honneur, et la compétition Jeunes Étoiles de ce festival de Valenciennes sera présidée par Régis Varnier, à qui on doit entre autres Indochine. Alors, vous comprenez, il s'agit là d'un festival de très haute tenue, très attendu, et c'est avec Jean-Hugues Anglade qu'on va parler cinéma, mais pas que, cet après-midi.
Europe 1.
Bonjour Jean-Hugues.
Bonjour.
Jean-Hugues Anglade, que j'ai accueilli avec une barbe un peu à la Émile Zola, dû à un rôle, c'est ça, que vous venez de composer.
C'est ce que j'essaye d'expliquer à mes parents chaque fois que je vais les voir, c'est que je me vois souvent avec des looks différents. Je leur dis que c'est parce que je suis acteur et qu'en étant acteur, il faut changer de tronche pour pouvoir être crédible dans des rôles. Mais eux, ils en restent toujours à leur petit garçon. Voilà, cheveux coupés courts, pas de barbe évidemment.
Ben voilà, ce sont des parents.
Et ce sont des parents, et même à 60 ans passés, j'ai le droit à ce genre de remarques.
Alors, cher Jean-Hugues Anglade, dans un festival, on n'est jamais à l'abri de tomber sur un joyau. Mais est-ce que vous savez regarder les films avec l'œil frais et néophyte d'un spectateur, et non pas comme un pro qui a passé 37 ans de sa vie cerné par des caméras?
Oh ben écoutez, il est difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, on a l'impression, quand on fait ce métier, de connaître toutes les ficelles, au fond, de ce métier, comment les choses fonctionnent, comment les plans s'organisent, comment une dramaturgie, se met en place. Mais ça ne m'empêche pas d'apprécier l'originalité, le plaisir de découvrir un nouveau talent. Et là, il est vrai que les 9 films au programme de la compétition fiction sont des films, aussi bien des films français que des films étrangers. Et là, je me réjouis vraiment de voir différentes sensibilités.
Voilà, et des films forts, effectivement, puissants, de nationalités différentes. Alors, il y a une chose qui m'intrigue, Jean-Hugues Anglade. Oui. Il y a 3 ans, vous avez confié à la presse, avec l'âge, je suis de plus en plus facilement atteint, touché, ému par le cinéma, et selon les scénarios, ça peut même parfois devenir une sorte de souffrance. Alors, vous qui avez porté les rôles les plus sombres, les plus tragiques dans des films à la noirceur vraiment radicale, que vous jouiez Charles IX dans La Reine Margot ou Kaplan, par exemple, à la télé dans la série Braco, ben, vous êtes avec l'âge, en fait, de plus en plus perméable aux émotions?
C'est une question très intime. Je crois qu'effectivement...
Je ne vais vous poser des questions intimes.
Je sais, oui, alors, il faut que je m'y prépare. Je vais essayer de répondre à la première, du moins. Il est vrai que j'ai beaucoup plus le trac que je ne l'avais, par exemple, quand j'ai tourné La Reine Margot. J'étais aussi, dans ma génération. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a 60 piges, on est suivi par une génération qui déjà éclot et qui brille. Et c'est vrai que moi, en perdant par exemple quelqu'un comme Patrice Chéreau, c'est une famille que j'ai perdue et c'était un peu ma famille. Et tous les gens de ma génération, les acteurs aussi qui disparaissent, qui sont de ma génération, je le vis comme une sorte de fragilité. Je suis fragile à la disparition de ceux qui ont marqué un peu l'histoire du cinéma, depuis les années 80.
Avec l'âge, normalement, on apprend à se protéger et à tenir à distance. Si un acteur qui n'est jamais choisi pour des comédies, ce qui est votre cas, ne sait pas se rendre étanche dès qu'on dit coupé, forcément, ça impacte sa vie.
Oui, bien sûr, l'écho des films sur son intime, il était présent quand j'ai fait des films comme Nocturne Indien, mais j'étais très jeune à cette époque. Mais déjà, de par ma sensibilité, Je pense qu'avec le temps, ça ne s'est pas arrangé.
Alors, je reviens au Festival de Valenciennes, Jean-Hugues Anglade, oui. qui se déroule donc du 10 au 15 mars.
Oui.
Dans la compétition fiction, dont vous êtes le président, entouré de Natacia Kinski, Martin Lamotte, Fabien Berthaud, Elena Noguera, Camille Chamou, Etar Benjelloun, vous allez avoir à choisir entre 9 films en lice, signés par, on l'a dit, des réalisateurs et réalisatrices de nationalités très diverses. Mmh. Et vous allez donc débattre avec vos jurés, dont la trop rare Natacia Kinski, actrice inoubliable de Tess, de Paris, Texas, de Harem, avec laquelle vous avez tourné Maladie d'amour.
Oui.
Ça va donc être des retrouvailles avec Natacia Kinski. Vous étiez recroisée depuis le tournage de Maladie d'amour ou jamais?
Non, je pense que ça fait une trentaine d'années qu'on ne s'est pas vu.
C'est pas possible.
Mais c'était comme hier, en fait. Je sens des souvenirs très forts qui perdurent. C'est comme avec Béatrice Dalle, c'est comme avec certains de mes collègues acteurs. Mais j'ai pas le sentiment de l'espace-temps, de la durée. Je retrouve les gens et ils ont forcément changé parce qu'ils ont pris de l'âge. Mais autrement, on retrouve cette petite brillance dans l'œil, ce petit sourire qui a tant marqué certains de ses films. Et je pense à Anastasia, par exemple. Et c'est l'exemple même d'une femme qui n'a jamais véritablement appris à jouer. C'était une nature. C'est quelqu'un qui brillait par elle-même et qui brille toujours par elle-même. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait maintenant, comme ça, aux États-Unis. Je pense qu'elle habite aux États-Unis. Et
mais c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de compromis, comme
non,
vous.
Non, ben, j'ai fait quelques compromis en ce sens que j'ai accepté des scénarios qui n'étaient pas forcément de bonne aloi de choisir. Il faut savoir que c'est un métier dont il faut vivre. Et ça, on l'oublie trop souvent. Les acteurs qu'on voit à la télé, qu'on avait l'habitude de voir au cinéma, et qui vont et viennent entre ces différents médias, ce sont aussi des gens qui sont des comédiens, qui ont une famille à faire vivre. Et souvent, ça se passe pour ces raisons-là, qu'on ne fait pas forcément les bons films, les bons choix. Mais voilà, on a besoin de vivre.
Europe 1. Eh bien, on va dans un instant passer du cinéma à la vie vraie, justement. Mais je rappelle que le Festival de Valenciennes s'annonce du 10 au 15 mars sous les meilleurs auspices, avec des séances d'ailleurs accessibles à tous dans les salles Gaumont-Valenciennes, où seront projetées les compétitions fiction, documentaire, et puis les cartes blanches. Voilà, Jean-Hugues Anglade est le président de la compétition fiction. On a une heure pour vraiment faire connaissance. À tout de suite.
Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et son invité cet après-midi, l'acteur Jean-Hugues Anglade.
Jean-Hugues Anglade, président de la compétition fiction du prochain festival de cinéma de Valenciennes qui va se dérouler du 10 au 15 mars. Et cet après-midi, mon invité. Alors, cher Jean-Hugues Anglade, en 120 ans, en France, donc depuis l'année 1900, seuls 1500 garçons ont reçu le prénom composé de Jean-Hugues, qu'on imagine d'ailleurs dans une famille noble, suivie d'une particule, ce qui n'est pas votre cas.
Non.
Des Jean-Hugues, bah, j'imagine que vous n'avez pas dû souvent en croiser tout de même. Vous savez pourquoi vos parents vous ont donné ce prénom?
Ben non.
qui est effectivement
Jean,
très rare.
Prénom de mon père et Hugues, je pense que c'est pour des raisons plus chrétiennes, si j'ose dire. Comme ma mère est très croyante, je pense que elle a vu dans la figure de Saint-Hugues une raison pour m'attribuer ce prénom.
Bon, votre papa était vétérinaire
oui.
à Montbazon, près de Tours,
oui.
mais pas vétérinaire hein, comme on l'est souvent aujourd'hui en ville, en ne s'occupant que de chiens et de chats. Votre père, lui, était vétérinaire à la campagne, donc
oui.
Aidant par exemple à mettre bas du bétail ou des chevaux à une époque où on n'exprimait pas encore de sensibilité pour le monde animal. Votre père exerçait un métier qui, dans les années 60, à la campagne, pouvait être parfois assez violent. En tout cas, un métier qu'il fallait faire courageusement.
Oui, mon père a fait aussi, a soigné aussi les petits animaux. Hein, il y est venu sur le tard, mais surtout au départ, effectivement, il soignait des gros animaux et m'emmenait souvent dans les fermes pour assister à des vélages ou à des césariennes ou des débiquetages aussi pour les petits biquets, les petites chèvres. Et puis, j'ai toujours eu une grande admiration pour le métier de mon père et la façon dont il le pratiquait. Et,
il paraît qu'il vous sollicitait parfois.
Oui, bah oui, il était
pas toujours dans le contexte le plus évident. Par exemple, lorsqu'il y avait des animaux à euthanasier, oui. vous aviez 10-12 ans et oui, fallait faire preuve d'un sang-froid hallucinant et de ne pas se laisser emporter par le chagrin quand vous l'aidiez.
Oui, en fait, me demander de rendre ce service quand il n'y avait pas de personnel pour l'aider. Mais j'ai aussi moi-même... comment dire, pas euthanasié, parce que ça c'était quand même... J'ai tenu, j'étais là, j'étais présent, et j'ai vu mourir des animaux, enfin des chiens, des chats, mais j'ai aussi, comment dire, appris à faire des sérums antivenimeux aussi.
C'est vrai
pour, oui, au cas où mon père serait en déplacement, et si quelqu'un arrivait avec un chien piqué par une vipère, etc. Donc là,
vous savez toujours dit, préparer des sérums antivenimeux,
oui,
Jean-Yves
Anglade.
Oui, je
suis très très bon pour les piqûres.
C'est vrai.
Je le fais pas mal. Et le quotidien de mon père était un quotidien dur, hein, parce que c'est la campagne, c'est dur. Il faut se lever le matin, parfois à 2h ou 3h du matin, pour aller soigner une bête. Dans une écurie, par moins 5, et ça demande beaucoup de courage. Il l'a fait avec beaucoup de courage. Je le dis d'autant plus qu'il arrive au bout de son chemin et que c'est une manière un peu quand même de lui rendre hommage. Papa a été un très grand vétérinaire et je t'aime très fort.
Jean-Hugues Anglade, du côté de votre grand-père maternel, éleveur de bétail dans le Charolais, bah voilà, les choses également, j'ai presque envie de dire, n'étaient pas plus sereines à affronter pour un enfant, parce que quand même jusqu'à la fin des années 60, par exemple, lorsqu'il s'agissait du mode d'abattage des bêtes, on ne peut pas dire qu'on se préoccupait tout à fait du confort voilà, des animaux. Et vous avez assisté à des choses que je ne vous demanderai pas de raconter. Mais pour résumer, la vie rurale, au cours de votre enfance, c'était quand même pas la petite maison dans la prairie. Hein.
Non, c'était les années 60-65. J'avais un grand-père qui était maquignon, donc qui élevait des bêtes, et puis après qui les revendait, parfois qui les faisait abattre à l'abattoir de Charolles. Charolles, d'où la fameuse race de bovine de charolaise. Et c'est vrai qu'on avait une manière de les sacrifier assez choquante, assez violente, pour un petit garçon voilà, qui avait 10-12 ans, quoi. Et je dois dire que les dualités qui s'expriment en moi, ou les paradoxes qui sont en moi et qu'on retrouve dans mon métier d'acteur, oui. sont le fruit, le produit de ces différentes antinomies, si j'ose dire. C'est-à-dire que d'un côté, j'étais très heureux et très aimé, et d'un autre oui. côté, j'étais spectateur parfois de choses dont il aurait mieux valu que je ne le fus pas. Quoi, voilà. Parce que c'est vrai que ça crée des chocs, ça crée des traumatismes. Mais il y en a eu plusieurs comme ça dans ma vie, et voilà, j'ai vécu avec.
Ce à quoi on ne devrait pas assister, par exemple, lorsqu'on a 13 ans, vous prenez la route avec votre maman pour partir à la montagne, quand soudain, sous vos yeux, s'encastrent deux voitures dont vous allez, votre maman et vous, sortir les corps déchiquetés des tôles broyées. Il n'y a personne d'autre pour porter secours, donc il faut absolument le faire. Votre mère vous dit « tu vas m'aider » et vous extirpez deux personnes qui sont décédées, un jeune homme qui est brisé, un petit chien. Bon, on fait des cauchemars pendant tout le reste de son enfance,
non,
son adolescence,
dire,
après ça.
Que ça fragilise en globalité la personnalité, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'oublier. Et quand on est peut-être déjà acteur, on a la capacité de revivre à l'infini le choc émotionnel de tels événements. Et donc, si aujourd'hui, j'ai toujours autant de... comment dire, de le trac, où je ressens autant d'insécurité avant de tourner une scène.
Vous êtes l'homme intranquille.
Je pense que je suis un intranquille, et je l'ai été dès le départ. On parlait avec mon psy, en fait, je veux dire, ce ne sont pas des choses anodines, ce ne sont
Bien
pas
sûr.
Des... Voilà, donc...
C'est-à-dire, lorsque à 13 ans, on voit et on touche la mort, on ne peut devenir qu'un adulte intranquille.
Oui, absolument. Et on prend cher, quoi. Voilà.
On retrouve tout de suite Jean-Hugues Anglade.
Europe 1. Un parcours, une actu, chaque week-end, un invité se raconte au micro d'Isabelle Morizet. Et aujourd'hui, c'est l'acteur Jean-Hugues Anglade. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. La suite sur Europe 1.
Alors Jean-Hugues Anglade, vous aviez 20 ans lorsque vous avez réussi votre concours d'entrée au Conservatoire supérieur d'art dramatique à Paris. C'était une deuxième naissance, dites-vous. Vous aviez enfin accès à vous-même, c'est ça ?
Oui, j'ai... c'est un moment qu'il est difficile d'évoquer sans ressentir une émotion tant, comment dire, ma vie a recommencé, si j'ose dire. Ça a tout changé, ça a tout bouleversé et ça a rendu possible tout ce que je rêvais. Évidemment qu'il soit possible, mais
Par exemple, cette idée folle d'entrer au conservatoire, je crois savoir qu'elle vous était venue au cours d'une représentation à Tours donnée par le TNP, dirigée bien sûr par Jean Villard. Vous aviez 18 ans. Mmh. Donc, est-ce que devenir acteur, vous avez envisagé ça comme une issue de secours ?
Ah non, pas du tout. Non. J'ai été marqué par le cinéma aussi beaucoup à l'époque de Stache, les films de Sauté, les premiers films de Blié. J'ai les souvenirs cinématographiques avant même d'avoir des souvenirs de théâtre. et c'est la raison pour laquelle toute ma carrière, en fait, je l'ai déclinée sur le mode du cinéma, finalement. J'ai pas fait de théâtre. Par contre, rentrer au conservatoire, c'était une chance inouïe parce que déjà, ça me donnait de la crédibilité par rapport à mes parents. Et rentrer au conservatoire de Paris, c'était tellement improbable que tous ceux qui m'entouraient ont été bluffés. Quoi.
Et alors, d'autant plus qu'il paraît que vous avez préparé absolument seul le concours d'entrée, mmh. en piochant des textes parmi les classiques, par exemple, qui ornaient la bibliothèque de vos parents, Ruy mmh. Blas, Bérénice. Mmh. Mais c'est quand même extrêmement rare de réussir ce concours en ayant travaillé seul et à l'instinct.
Oui.
Personne ne vous a guidé, ni pour le choix des textes, ni pour la manière de les interpréter et d'incarner les rôles.
Non, je n'ai pas souvenir de copains qui m'aidaient à répéter mes textes. Non, je les ai répétés dans le grenier, devant un miroir, avec des disques de la Comédie Française pour voir un peu le phrasé qu'on pouvait...
Avec des disques de la Comédie Française
ouais, que je louais à la bibliothèque de Tours. Pour pouvoir sortir à peu près des vers correctement, quoi, voilà. Donc, j'ai fait ce cheminement-là, et surtout, je l'ai gardé très secret, parce qu'en fait, j'ai pas dit, je vais faire le conservatoire de Paris, je vais devenir acteur, etc. En fait, j'en ai pratiquement pas parlé, et je me suis inscrit un petit peu en cachette, j'ai reçu ma convocation, j'y suis allé et j'ai reçu le premier tour. Et après, il y avait un deuxième tour et le deuxième tour, j'étais complètement bouleversé par le résultat puisqu'il s'est avéré qu'il était positif.
Alors, autre cadeau, Antoine Vitez, en personne, qui a dirigé donc le Théâtre National de Chaillot, puis la Comédie Française jusqu'à sa mort, Antoine Vitez va devenir au conservatoire, donc votre professeur, et finalement va devenir votre père de théâtre. Mais comment vous êtes passé d'Antoine Vitez à l'univers si sulfureux de Patrice Chéreau ?
Alors c'est très différent, parce qu'en fait, Patrice n'était pas véritablement un pédagogue, alors que Vitez était un pédagogue. Il expliquait le théâtre et il nous a encouragés à oser, à faire des choses qu'on ne serait certainement pas amené à faire dans notre vie professionnelle, à jouer des rôles qui étaient des rôles de vieux,
des rôles décalés.
Des rôles complètement décalés.
Mais c'était un professeur de théâtre absolument formidable, oui, fabuleux, mais pourtant vous avez préféré le cinéma au théâtre.
Oui, parce qu'il y a dans le cinéma une vibration qu'on ne retrouve pas au théâtre, d'après moi. Et puis surtout aussi, il faut savoir que moi je suis très, très introverti, très timide, et que j'ai beaucoup de mal à m'imaginer montrer mes talents d'acteur sur une scène de théâtre. Voilà, donc c'est presque une imposture pour moi. Mais alors que
pour celui qui a été reçu au conservatoire en ayant préparé seul le concours et qui a eu Vitez comme professeur,
oui.
Mais monter sur une scène de théâtre, ce serait une imposture, Jean-Hugues Anglade.
Ben, c'est-à-dire que pour moi, oui, ça l'était parce que le théâtre, c'est une convention à laquelle
vous n'adhérez pas.
Je n'adhérais pas, même si j'ai plaisir à voir des gens jouer au théâtre. Mais dès que quelqu'un me dit « Ah, je vais jouer dans telle pièce, je vais faire telle pièce, etc. », je le regarde avec des grands yeux et je me dis « Mais comment tu peux, prétendre monter sur scène et jouer devant des gens et que des gens t'applaudissent ?» C'est quelque chose toujours en moi, ancré en moi.
Donc les caméras sont une barrière rassurante, en fait, au cinéma.
La caméra, elle est comme un psychanalyste. Elle est neutre et bienveillante. Voilà.
Donc, vous avez abandonné le théâtre pour le cinéma. Le cinéma était censé vous faire fuir vos démons, ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, ceux de l'adolescent intranquille devenu un adulte intranquille. Mais avec votre premier succès, L'homme blessé, ce sont les démons de Patrice Chéreau que vous avez épousés, auxquels vous avez donné corps avec une plongée sans filtre dans l'univers d'un jeune homosexuel qui se prostitue. Est-ce que vous n'êtes pas resté finalement assez longtemps ce personnage-là dans la tête des autres réalisateurs, des producteurs, peut-être du public ? Est-ce que vous avez cette sensation ?
Non, mais ça me fait rire parce qu'on m'a toujours filé que des rôles de dingue et des trucs impossibles à faire. Quand j'ai fait L'homme blessé, j'avais 53 jours de tournage, je me souviens, je l'ai compté. Je faisais une petite barre sur le... Chaque jour que je tournais, je pensais jamais que je n'arriverais.
Que vous arriveriez au bout.
Que j'arriverais au bout. Parce
tant
que
c'était
que,
lourd.
Tant c'était lourd à porter, oui, effectivement. Et là, il y a un intervenant, il y a quelque chose qui intervient d'important dans mon caractère. C'est que, inévitablement, ce type d'expérience, plusieurs fois répétée, puisque je l'ai eu aussi dans Nocturne Indien, je l'ai eu aussi d'une certaine façon dans La Reine Margot, a renforcé une sorte de besoin de solitude, et une solitude tout court, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas le sentiment de la bande, des amis. C'est un métier que je fais d'une façon extrêmement personnelle, et j'encaisse. Mais j'encaisse toujours tout seul, quoi. Voilà.
Juste avant de faire une pause, vos parents ont refusé de voir le film de Patrice Chéreau, celui qui vous a fait exploser donc au cinéma, L'homme blessé. Ils ont refusé de le voir à sa sortie, mais l'ont-ils vu après, ensuite ? Non, jamais ?
Non.
Ils ont refusé jusqu'à présent.
Oui, mais c'était encore une autre époque. On a tourné ça en 82, c'est sorti 2 ans plus tard. C'était très... Enfin, c'était très difficile pour eux de le voir. Moi, je pense que j'aurais du mal à voir mon fils dans un rôle aussi dur, aussi blessant.
On retrouve tout de suite Jean-Hugues Anglade.
Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est jusqu'à 16h avec Isabelle Morizet.
Europe 1.
Tout ce qu'on veut dans la vie pourrait être le titre de cette émission, mais c'est bien, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Vous écoutez jusqu'à 16h. On retrouve Isabelle Morizet et son invité, l'acteur Jean-Hugues Anglade.
Alors Jean-Hugues Anglade, malgré tous les talents qui contribuent à l'aventure d'un film, y a tant de mystères autour de ce qui en fait un succès ou un échec. Toscan Duplantier, d'ailleurs, grand producteur de cinéma qui craignait pas de défendre des projets audacieux, affirmait « l'échec est la règle ». Le succès, l'exception. Alors des triomphes, vous en avez connus, comme 37 de le matin, La Reine Margot, bien d'autres. Mais comment vivez-vous parfois l'indifférence du public, cette petite mort à la sortie d'un film que vous avez aimé faire et alors, que vous savez être bon? Vous savez, je pense par exemple, mais là peut-être aussi c'était différent, c'est une question de timing, à l'excellent Je suis un soldat avec Louise Bourgoin.
Oui, alors là, on n'a pas eu de chance parce que c'est sorti 3 jours après le massacre du Bataclan. Donc, personne n'avait cœur à aller au cinéma, je pense. Tout le monde était en deuil. Et on est malheureusement passé à côté de notre public. Mais c'est un film que j'aime énormément parce que c'est un film low budget, donc peu d'argent à l'arrivée. Et à l'arrivée, un film d'une grande subtilité, d'une grande... intelligence, et j'en ai connu comme ça quelques-uns. Et
qui n'ont pas rencontré le public,
non.
Alors pour d'autres raisons que le mauvais timing.
Oui. Mais qui n'ont pas compris le sujet, ne sont pas rentrés dans le film. J'avais fait un film qui s'appelait Mineur 27, par exemple. J'en ai fait un autre que j'avais fait en Allemagne qui s'appelait Fata Morgana. C'est des films qui sont réussis. Malheureusement, ils ne trouvent pas leur public. Pourquoi ? Parce que ils ne trouvent pas de distributeur. Bon, chacun sait que ce qui marche quand même, c'est souvent les comédies, et que les films se retrouvent distribués beaucoup plus facilement sur toute la France et l'Hexagone.
Mais la comédie, ça n'est pas votre précaré.
Ben non, pas trop, parce que ça pouvait le faire dans des films comme Nikita, où il y avait des petites pépites d'humour. Dans Subway aussi, quand je dansais avec Adjani sur mes patins à roulettes. On peut écrire des choses sur moi qui sont drôles, mais sauf que il faut, comment dire...
Mais ce sont des éclats comme ça.
C'est des éclats et il ne faut pas, vouloir me faire jouer camping, quoi.
Nous ne verrons pas Jean-Hugues Anglade aux côtés de Franck Dubosc.
Non, mais voilà. Bien que j'ai tourné avec lui, le marquis.
Mais c'est vrai.
Mais ça avait une petite connotation comique quand même.
Mais alors, Jean-Hugues Anglade, que ce soit du côté des gens de cinéma ou du public, on sait qu'il y a toujours beaucoup de subjectivité autour d'un film. Par exemple, à quoi ça tient un casting? Un casting qui peut faire naître ou pas une future star de cinéma. Sur 37.2, par exemple, Jean-Jacques Benex ne voulait pas de vous. C'est hallucinant, mais c'est une réalité. Benex était persuadé que vous ne pouviez pas être le personnage de Zorg face à Béatrice Dalle, car vous vous trouvez trop frêle, trop jeune. Qui a retourné le refus premier de Benex?
Dominique Besnier.
Encore lui, Dominique?
Voilà. Dominique Besnier m'a dit, il faut que tu rencontres Jean-Jacques parce que je suis moi certain que c'est toi le personnage. Et effectivement, Benex pensait que j'étais trop jeune. Pourquoi? Parce qu'il avait vu L'Homme blessé et que dans L'Homme blessé, je fais 17 ans et que là, son personnage, il le voulait plus âgé. Et puis, après mûre réflexion, il s'est dit, finalement, les personnages du bouquin ont tous les deux 28-30 ans. Moi, je veux rajeunir mon casting. Et je veux qu'il ait 20 ans, 22 ans, 23 ans. Bon, moi, j'avais 30 ans, mais j'en faisais 5 de moins. Et la petite Dalle, elle avait 22 ans. Donc, en fait, j'ai rencontré Jean-Jacques. Et Jean-Jacques m'a dit, voilà, ça va être un film un peu chaud. Mais bon, ça ne m'effrayait pas particulièrement.
Ayant déjà tourné avec Chéreau, L'Homme blessé.
Voilà, exactement. Et puis, en l'espace d'un quart d'heure, on a fait affaire, quoi. Et Thierry m'a dit, t'es mon Zorg. Alors, moi, j'étais évidemment très, très heureux. Et
ça a été une sacrée aventure.
Ça a été une sacrée aventure.
Ouais. Alors, Benex, au départ, ne vous voulait pas. En revanche, avec Piala, c'est vous qui avez refusé un rôle. En 91, vous avez refusé de tourner Van Gogh car vous n'aviez pas envie de lutter en fait contre Maurice Piala. C'était pour le rôle titre pas ?
Il y a des gens. C'était pour le rôle titre, oui, c'est pour le rôle de Van Gogh.
Oui, oui.
Moi, je n'arrivais pas du tout à me projeter dans le personnage. Donc, j'essayais de le convaincre que je n'étais pas ce personnage. Et lui me disait si, on va faire ce film ensemble. Et il en a été vraiment très...
Presque envie de dire Marie.
Marie, oui, il a été Marie, que je le refuse. Moi, je pense que finalement, Dutronc était magnifique dans le personnage. Et moi, je sortais de Nocturne Indien, j'étais limite dépression nerveuse.
Oui, que vous aviez tourné entre Bombay, Goa, Bénarès.
Voilà,
et là vous aviez été hypnotisé par l'Inde qui avait jeté sur vous ses sortilèges dont vous ne parveniez pas à vous défaire.
Ah non, mais aller en Inde, vous verrez, aller à Bombay, quand on n'y est jamais allé et qu'on doit tourner pendant 6 semaines dans une ville comme Bombay, avec tous les repères inversés, en fait. C'est une civilisation, c'est un mode de vie qui fonctionne totalement à l'inverse d'une autre. Donc, j'étais très, très, très marqué et très angoissé par cette expérience. Et je ne pouvais pas enchaîner directement avec quelqu'un avec lequel il fallait débattre. Et je ne m'en sentais pas capable.
Donc, vous avez refusé Van Gogh, mais peu de temps après, Patrice Chéreau, lui, vous a sollicité pour vous entraîner donc dans l'aventure sûrement de son film le plus épique, grandiose et tragique, La Reine Margot, sur fond de Saint-Barthélemy. Alors, vous serez Charles IX, Jean-Hugues Anglade, roi versatile, luttant contre ses démons avant de connaître une agonie furieusement cinématographique, transpirant le sang par tous les pores de sa peau à cause d'un empoisonnement. Bon, ce tournage, vous l'avez vécu comment, La Reine Margot ?
J'ai vécu très bien.
Vous l'avez vécu très,
très bien.
Bien
avec beaucoup de jubilation.
Pourquoi jubilation ?
Parce que j'ai tourné cette année-là 3 films. J'ai tourné un film indépendant américain qui s'appelait Killing Zoe.
Et très violent.
Oui, mais d'une violence tellement ultra que quelque part, elle ne m'effrayait pas à jouer. Il y a eu ensuite, Les Marmottes de Deli Chouraki. Alors, je suis passé directement de Killing Zoe aux Marmottes, à Chamonix, où on a tourné un film dans une ambiance merveilleuse. Et puis, ensuite, il y a eu La Reine Margot. Et La Reine Margot, Au début, j'étais un peu énervé parce que j'aurais voulu jouer la môle et c'est le rôle qu'a joué Vincent Pérez.
Oui.
Et puis finalement, je me suis rendu compte que le personnage de
Charles IX
était un outsider formidable, qu'on pouvait en faire un personnage totalement...
Vous en avez fait un personnage très très inquiétant, parce que parfois terriblement attendrissant et en même temps d'une cruauté fascinante.
Et voilà, et c'est un petit peu en fait la façon dont moi je me définis
aussi.
Vous voyez,
c'est pour ça que j'évoquais la douceur énigmatique vénéneuse qui vous définit.
Oui, oui, j'aimais l'idée du personnage qui passait de la chose à son contraire, et j'aimais ce côté attendrissant du personnage et en même temps effrayant.
Alors, il y a une décision très insolite de Patrice Chéreau qui a très très bien fonctionné sur La Reine Margot. Peu de gens savent que c'est à Daniel Thompson que Chéreau a confié les dialogues de cette tragédie, La Reine Margot. Daniel Thompson, plus habitué à l'époque, en tout cas aux comédies populaires, on lui doit les dialogues de Rabbi Jacob. Mais Daniel Thompson a amené une espèce de modernité décomplexée dans l'univers de Dumas. Généralement, le cinéma c'est archi cloisonné. Des duos comme Patrice Chéreau et Daniel Thompson, ça arrive très rarement.
Oui, mais c'est pas étonnant. Je pense que ça fait partie de l'intelligence, de la pertinence. Cette démarche de Patrice était très pertinente parce que je pense qu'il a toujours apprécié l'idée de travailler avec des gens très différents de lui. Je pense à ça parce que je sais qu'il fait la même chose avec les musiciens, il faisait la même chose. Il aimait s'entourer de gens différents de lui. Par exemple, aussi la reine Margot, son point d'ancrage, c'était Goodfellas de Scorsese. Il voulait filmer avec autant de fluidité que Scorsese le faisait dans ce film. Et je pense que travailler avec Daniel Thompson, ça permettait à la reine Margot d'être peut-être plus accessible. Daniel ayant une écriture plus populaire et ayant travaillé sur des sujets très commerciaux, elle a eu cette qualité d'apporter ce point de vue sur la reine Margot, et les gens encore aujourd'hui m'en parlent. Je crois que ce film a parlé à beaucoup de gens et c'était pas un film intellectuel, quoi, voilà.
Alors on pourrait évoquer bien d'autres films, ceux que vous avez tournés avec Sautet, ceux que vous avez tournés aux États-Unis avec Angelina Jolie, le fameux thriller Taking Lives. Bon, mais le temps nous manque, on fait une pause.
D'accord.
Et on se retrouve tout de suite, Jean-Hugues Anglade.
Europe 1. Europe 1.
Il est 15h43, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, une conversation entre Isabelle Morizet et son invitée qui va se poursuivre jusqu'à 16h sur Europe 1. Et cet après-midi, on parle cinéma avec Jean-Hugues Anglade.
On parle cinéma, mais pas que, avec Jean-Hugues Anglade, président de la compétition fiction du prochain Festival de cinéma de Valenciennes qui va se dérouler du 10 au 15 mars. Jean-Hugues Anglade, vous êtes le père de deux garçons de 17 et 18 ans que vous avez élevés seuls depuis leur petite enfance, car c'est vous qui avez obtenu la garde de vos fils et non leur maman. C'est pas si fréquent en France, hein. Dans 78% des cas, ce sont les mères qui ont la garde des enfants, et il n'y a que 6% en fait des pères qui ont la garde exclusive de leur progéniture. Alors, quand on est acteur, on vit très souvent loin de chez soi pour les tournages. Comment vous êtes débrouillé ?
En fait, j'ai raisonné de la façon suivante. Je me suis dit, j'ai deux garçons. Ces deux petits garçons, ils doivent grandir, normalement, avec tout l'amour que je peux leur porter et avec des valeurs, des principes que j'estime être les bons principes. J'étais très heureux de pouvoir les élever. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris beaucoup d'énergie, ça crée beaucoup de problèmes de logistique, mais
un renvoi d'amour aussi assez phénoménal.
Oui, je pense que nous sommes très très liés.
Très fusionnel,
mais j'en ai un déjà qui est parti à Lyon en fac, et puis le dernier qui est en terminale à Louis-le-Grand, là, dans mon quartier. Il vit encore avec moi et on s'entend à merveille. Je pense que c'est ce que je voulais réussir dans la cinquantaine, parce que je crois que tout ce qu'on a évoqué, les paradoxes à la fois du bonheur et de la douleur dans mon enfance à moi, je pense que je l'ai toujours conservée, extrêmement vivante, extrêmement vive. Et je m'en suis servi beaucoup pour éviter de faire des impairs ou éviter de créer des conflits, des oppositions avec mes enfants. Parce que moi-même, j'ai quand même été élevé, je dirais pas à la dure, mais je veux dire quand même avec des principes très forts, des principes de « il faut faire ça ». Et moi, mes enfants, je les ai surveillés du coin de l'œil, mais je ne suis jamais opposé à leur choix. Je ne les ai jamais orientés vers quelque chose plutôt que vers autre chose. Si bien que, en fait, je crois qu'ils ont un rapport à moi qui est très...
qui est puissant.
Qui est puissant et qu'il y a une tendresse et un amour très fort.
Mais alors, Jean-Luc Anglade, lorsque démarre l'aventure de la paternité, on ne sait jamais si on sera à la hauteur de la mission, parce que c'est vraiment une mission. Vous saviez, vous deviniez, vous, l'homme blessé incarnant si souvent des personnages torturés, que vous étiez fait pour apprendre la vie à des enfants, les rassurer, leur montrer le chemin? Vous saviez que vous aviez ces capacités-là?
Oui, j'avais l'énergie pour le faire. Oui.
Que tous les hommes n'ont pas forcément?
Oui, non, j'avais l'énergie pour le faire et j'étais très paternel. J'avais un mélange de féminité et de masculinité dans ma manière d'accompagner mes enfants dans la vie. J'étais extrêmement tendre et en même temps, je leur apprenais la vie tout doucement au fil des ans. Et en fait, je crois... qu'aujourd'hui, ils sont sur le bon chemin. Quoi.
C'est magnifique. Vous les avez souvent emmenés sur les tournages, vos fils, Jean-Luc Anglade, ou bien vous vous en êtes plutôt gardé de ça?
Non, mais les enfants, je les ai emmenés quand ils étaient tout petits, et ça les amusait beaucoup d'aller sur un tournage d'un film d'époque, parce que voilà, ils voyaient un carrosse, ils voyaient des trucs. Je faisais tout pour, hors période scolaire, pour les emmener avec moi en tournage. Si c'était le cas.
Par exemple, est-ce qu'ils ont regardé leur père dans Braco, donc sur Canal, en flic torturé de la SDPJ 92, et est-ce qu'ils vous ont vu également en Adamsberg de Fred Vargas?
Non, je crois qu'ils n'ont vu que le grand bain. C'est le plus âgé qui a vu que le grand bain. Mais autrement...
Vous avez tourné sous la direction de Gilles Lelouch et qui a fait un carton l'année dernière.
Mais je ne les encourage pas à aller voir mes films parce que je crois qu'ils s'en foutent un peu.
Ou alors ils les découvriront lorsqu'ils Voilà la vraie curiosité spontanée.
Surtout pour l'un d'eux.
Après Mortel Transfert, Jean-Luc Anglade, Mortel Transfert dans lequel Jean-Jacques Benex, vous avez fait jouer un psy. Vous êtes entré en analyse.
Oui.
Donc, s'inventer d'autres vies au cinéma ne guérit de rien.
Non. Non. Le cinéma est un combat. C'est un combat qui blesse. Les personnages sont des personnages qui peuvent vous suivre longtemps et vous blesser longtemps.
Quand on est quelqu'un d'aussi poreux aux émotions, il y a presque quelque chose de masochiste à choisir ce métier, même si on est terriblement doué pour l'exercer.
Non, parce qu'en même temps, c'est le fond de ma personnalité tout de même, c'est le fond de ma sensibilité aussi. Je suis extrêmement audacieux dans le jeu parce que j'adore cette démarche de combat, de duel avec un personnage. Pour rien au monde, j'aurais fait autre chose. Je suis à part musicien, si j'avais eu les capacités de l'être.
Mais je sais que vous jouez très bien de la guitare et que l'un de vos meilleurs amis est Louis Bertignac. On fait une pause, on retrouve tout de suite Jean-Luc Anglade.
Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite est fin. Isabelle Morizet retrace le parcours de son invité depuis 15h, mais elle met aussi l'accent sur son actu.
Cet après-midi, on se balade en compagnie de Jean-Hugues Anglade, qui sera le président de la compétition fiction du Festival de Valenciennes du 10 au 15 mars prochain. Jean-Hugues Anglade, je me suis toujours demandé comment et pourquoi, en fait, le cinéma sait rendre impudiques les pudiques. Parce que, manifestement, vous êtes quelqu'un d'assez verrouillé sur vous-même, secret, solitaire, pudique, réservé. Je pense, par exemple, au film de Michel Deville, Nuit d'été en ville, que vous avez traversé intégralement nu pendant près de 2 heures. Mmh. Mais on pourrait aussi évoquer la première expérience cinématographique avec Patrice Chéreau, L'homme blessé. Pourquoi le cinéma sait rendre impudique les pudiques?
Moi, je ne pense pas que ce soit de la pudeur. Je pense que on obéit à un script, on se jette dans une histoire.
Oui, mais faut-il encore être capable d'un total lâcher-prise ?
Ah ça oui, mais Benex m'avait prévenu, il m'a dit il y a des scènes très chaudes, il va falloir se déshabiller souvent, et donc j'ai mesuré à peu près la température, c'est le cas de le dire, qu'il ferait sur ce tournage, et puis oui c'est un paradoxe.
En fait vous ne ressemblez pas à vos rôles, non, Jean-Hugues Anglade, parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui est d'une douceur et d'un calme rassérénant. Or, on vous confie presque exclusivement des rôles de personnages brisés, alors que vous êtes doux, serein, dans la vie vraie. C'est très étonnant, le spectre est incroyablement large entre la vie vraie et ce que vous incarnez au cinéma.
Je vous écoute parce que vous parlez très très bien, très très bien de ma situation.
Mais pourquoi alors ?
Je serais bien incapable de vous l'expliquer parce que franchement, tout ce que vous dites est vrai. Je suis solitaire, je suis secret, je suis un peu misanthrope. J'ai reçu des coups violents dans ma vie et je pense que je fais du cinéma. Parce que le cinéma, finalement, transcende peut-être cette nature fragile qui est la mienne, cette nature tourmentée qui est la mienne.
Vous exorcisez.
J'exorcise. Donc, en fait, quand on disait tout à l'heure, le psy, tout ça, c'est... En fait, le psy, il sert à faire certaines choses et il sert à faire avancer certaines choses.
Mais vous vous êtes trouvé surtout, ou vous surprenez toujours, Jean-Hugues Anglade ? Vous savez maintenant, aujourd'hui, de quoi vous êtes capable ? Vous vous surprenez encore ?
Non. Ce sont des questions horriblement difficiles. J'aime ne pas me reconnaître.
Voilà, mais c'est magnifique comme réponse. Vous aimez ne pas vous reconnaître. Bon, alors, le cinéma, en plus, ce qui est magnifique, c'est que c'est ouvert sur le monde. Et le prochain Festival de cinéma de Valenciennes, qui se déroule du 10 au 15 mars, va le prouver. Vous en êtes le président, donc section fiction, qui présente des longs-métrages de tout pays. Vous glissez dans la peau d'un spectateur, ça va être vraiment très excitant.
Oui, ça l'a été quand j'ai été directeur du Festival d'Angoulême, il y a quelques années, là, deux, trois ans.
Créé justement par Dominique Besnéard.
Oui, créé par Dominique Besnéard. Et je suis très heureux de voir des films dans le contexte des festivals parce que c'est vraiment là où je vois vraiment les films.
C'est-à-dire immergés dans le public ?
Immergés. Là, je ne sais pas si on va être immergé dans le public, si on les voit en projection privée ou pas, mais en tout cas, j'observe un art dont je connais, disons, quand même un peu la grammaire après quelques années. Et je dois dire que je suis à même, je crois, d'émettre des points de vue sur la narration, sur l'image, sur le jeu. Donc, je vais passer, je pense, un très bon moment.
J'ai une ultime question pour vous, Jean-Hugues Anglade. Avec les années, on n'a plus besoin d'être aimé à tout prix ou bien, finalement, on ne renonce jamais à ça ?
Ah non, ça, oui. Non, ça... On ne renonce jamais à ça. On a besoin d'être aimé. Et a fortiori, plus les années passent, et plus cet amour vous est...
Nécessaire.
Nécessaire, oui.
Dit-il avec...
Avis aux amateurs.
Oui, avec des étincelles dans les prunelles. Avis aux amateurs. Très bien. Eh bien, on restera sur cet aveu. Voilà, le festival... De cinéma de Valenciennes démarre le 10 mars prochain. On vous y retrouvera et on se tiendra au courant des résultats de la compétition. Merci infiniment,
merci
Jean-Hugues Anglade.
Merci beaucoup.
Je vous dis à très bientôt.
À très bientôt.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet revient bien sûr dès demain 15h sur Europe 1 avec un duo de comédiens, d'acteurs, Gérard Lanvin et Olivier Marchal, à l'affiche d'une comédie Papy-Sitter en salle depuis mercredi. À suivre, L'équipée sauvage de Mathieu Noël. Europe 1.